partout au Québec. Vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
11h05, bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Avant d'aller joindre notre prochain invité, Alain Pronkine, message d'intérêt public pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'aide psychologue ou enfin d'aide, si vous souhaitez être écouté. Il y a une profession qui est peu connue, c'est un auditeur qui nous écrit, thérapeute en relation d'aide. Elle nous écrit, quand je vous entends parler que l'écoute est très importante, cela me rend triste car c'est justement notre spécialité. Nous pourrions faire une différence énorme, mais notre profession n'est pas assez connue. Alors, difficulté d'avoir accès à un psychologue, psychiatre, CLSC, service de première ligne, sachez que les thérapeutes en relation d'aide, ça existe. Alors, je vous partage l'information. Peut-être est-ce possible pour vous d'entrer en contact avec un thérapeute en relation d'aide qui pourrait faire une différence dans votre vie. Voilà, c'est dit. Maintenant, je vais joindre Alain Pronkine, chroniqueur aux affaires religieuses. Bonjour Alain.
Bonjour Nathalie.
Écoute, je voyais cette semaine deux choses qui ont frappé l'actualité. Le scandale en pédocriminalité en France. C'est un scandale qui branle la France parce que là, on peut mettre des chiffres. Un nombre de victimes associé à un nombre de curés, de prêtres qui ont commis ces crimes odieux. Et avec ça, c'est ajouté, on a vu ça dans la presse cette semaine, une autre demande d'action collective contre les Frères de la Charité. Lorsque j'ai vu ça, Alain, je me suis dit, l'Église catholique est sur la défensive depuis des années pour des scandales qu'on découvre en matière de pédophilie, de pédocriminalité. Est-ce qu'au Québec, est-ce que tu as compté, on est à combien de demandes d'action collective avec celles qui étaient confirmées cette semaine? Est-ce que tu connais le chiffre?
Ben moi, j'ai recensé les chiffres que j'ai vus défiler là, dans les différents journaux. Oui. Et on parle de 16. Si on a des doublons parce que les Frères de Sainte-Croix sont poursuivis dans deux recours, ceux de Sacré-Cœur et ceux de Saint-Viateur, ben là, on arrive un peu plus. Mais on parle de 13 communautés religieuses et de 3 diocèses qui sont poursuivis actuellement au minimum là, par des recours collectifs.
Donc, depuis c'est à peu près énorme. 2015. Hein? C'est énorme, effectivement.
C'est énorme.
Mais lorsqu'on regarde ça, Alain, on se dit, mais pourquoi pas une enquête publique comme on a fait, par exemple, en France? Ben, l'Allemagne est secouée par ce genre de crimes commis par l'Église. Même chose aux États-Unis. Pourquoi pas commander une enquête publique pour faire la lumière au Québec? Parce que là, on y va de recours en collectif en recours collectif sans avoir un portrait juste et précis du nombre de victimes, du nombre de jeunes victimes qu'a fait l'Église au Québec. Est-ce que
Le seul au diocèse de Montréal de Mgr Lépine, lui qui a décidé d'y aller en disant, ben écoutez, il a mandaté un juge à la retraite, le juge André Denis, faites un tour de tous les dossiers qu'on a pour trouver ou débusquer les prêtres pédophiles. C'est la seule tentative, mais uniquement à partir des dossiers, pas à partir des gens qui appellent pour dire « voici, je dénonce telle situation ». Dans les pays où il y a vraiment eu des enquêtes indépendantes, il faut citer l'Irlande. L'Irlande a eu deux rapports. Un juste sur l'archidiocèse de Dublin, qui est ce qu'on appelle le rapport Murphy, et un autre qui est le rapport Ryan sur les instituts religieux. Et là, on est allé, c'est en 2009 environ, on a vraiment fait le tour en Irlande là, au niveau de l'archidiocèse, au niveau des instituts. En Australie, on a frappé beaucoup plus. Là, on est allé sur l'ensemble, c'est une commission royale d'enquête, là, on est allé sur l'ensemble, pas juste chez les catholiques, aussi chez les juifs, aussi chez les musulmans. On a vraiment été dans l'ensemble, mais aussi, évidemment, les sectes. Donc, ça, c'est arrivé en 2013, la commission d'enquête, et le rapport est sorti en 2017. Il y en a eu aussi en Angleterre, pour l'Église anglicane. Et, évidemment, aux États-Unis, là, mais là, aux États-Unis, le système est un petit peu différent, c'est qu'il y a des enquêtes suivant les différents États. Donc, on a des exemples de par le monde d'enquêtes publiques sur la situation. En France, c'est un petit peu différent. En France, ce sont les diocèses et les communautés religieuses qui se sont mis ensemble, qui ont mis un budget, je pense, de 3 ou de 5 millions de dollars pour dire, écoutez, faites une enquête. Et là, la commission qu'on appelle Sauvé, par le président de cette commission-là, s'est entourée de 22 experts, des psychiatres, des journalistes, des policiers, et on a fait enquête. Et on a demandé aux gens d'appeler, pas juste à partir des dossiers, mais appelez-nous. Et c'est là où on a sorti le grand rapport qui est sorti la semaine dernière avec environ 300 000 victimes puis 3 000 prêtres pédophiles.
300 000 victimes avec une prévalence forte chez les jeunes garçons de 10 à 13 ans qui
oui,
ont été agressés. Moi, je trouve ça tellement révoltant parce que là, au moment où on se parle, Alain, je pense à tous ces hommes qui sont à l'écoute, qui gardent leur secret, hein, qui ont été agressés par un prêtre dans une école, dans un pensionnat, à l'église du village, dans la sacristie, et qui conservent, qui gardent pour eux ce pénible souvenir, qui souffrent en silence. Je me dis justement pour libérer la parole de tous ces hommes, parce que c'est assez fascinant le nombre d'hommes qui ont été agressés au Québec. Là. Moi, ça me frappe, mais on n'a pas de chiffres, tu comprends, mais par respect pour eux, je reviens à cette idée d'enquête publique ou peut-être une autre formule, mais pour libérer cette parole qui... Écoute, il y a des hommes là, qui ont vu leur vie complètement anéantie. Tu le sais, Alain, c'est extrêmement difficile de t'être agressé quand t'es tout petit puis ça mine toute ton existence. C'est assez incroyable quand même.
Oui, et puis les agressions, c'est pas des agressions quand les jeunes garçons ont 17-18 ans. Ça commence en bas de 6 ans, 5 ans.
Hey, mon Dieu,
c'est et bien. Ça va 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Au Québec, la cause qui a frappé l'imaginaire collectif, c'est celle de Brian Boucher. Parce que Brian Boucher, c'est un prêtre qui a agressé, mais il n'a pas agressé dans les années 50 et 60, il a agressé dans les années 2000. Et ça, ça a frappé l'imaginaire collectif parce que le crime, ce qu'on sait du rapport français, c'est que actuellement, les crimes de pédophilie dans l'Église sont comme dans les autres sphères de la société. Mais avant 1980, ils étaient beaucoup plus élevés, 3 fois, 4 fois plus élevés que dans d'autres sphères de la société.
Il y a un auditeur qui nous demande pourquoi il y a autant de pédophilie dans les diocèses, dans l'Église. C'est vrai que c'est incroyable. Ça dépasse l'entendement là, que de si jeunes enfants étaient agressés... souvent en répétition. Là.
C'est... Oui, mais c'est l'omerta aussi. C'est le silence. C'est l'autorité qui décidait, parce qu'on sait que l'Église quand même contrôlait des grands pans de la société jusque dans les années 60-70. Et c'est le fameux omerta, c'est le silence où tout le monde disait, bon, on va déplacer le prêtre pédophile, le religieux qui agressait des enfants au lieu qui enseigne à notre école de Montréal, ben, on va l'envoyer dans le bas du fleuve, on va l'envoyer ailleurs. Et ça, on l'a vécu au Canada, aux États-Unis. C'était le même modèle qui était, qu'on retrouvait partout. Le pape le confirmait. En disant oui, on déplaçait les prêtres à l'époque. Et on les envoyait aussi, on a vu ça pendant les années 60, dans des centres de thérapie.
Thérapie oui.
Qui était contrôlée par l'Église. On en a un au Canada, à Southdown, au nord de Toronto. Alors, c'est cette omerta-là dans des cas d'agression sexuelle sur des enfants. Et la question, c'est est-ce qu'il faut arriver à dire, est-ce qu'on met le pied à terre? Est-ce qu'on fait comme en France? Est-ce qu'on fait comme en Irlande, en Australie? Puis on dit, oui, on fait une vaste commission d'enquête. Ça prend 2 à 3 ans minimum. Et là, on va aller au fond des choses. Mais on a beau faire enquête, on a beau dire, il y a tant de victimes, tant de prêtres pédophiles, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que tant que ça ne changera pas dans les milieux de l'Église, ça va changer quoi?
Oui, je comprends. Mais en même temps, ça, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le lien qui a tissé l'Église catholique à la société québécoise. Il y a encore plus de 6 millions de Québécois qui se disent catholiques. Est-ce qu'on serait capable collectivement, compte tenu de notre relation avec l'Église catholique par le passé, de mettre un pied à terre et de dire non, assez, c'est assez. On veut ouvrir les livres, entre autres, avec une enquête publique. Est-ce que tu crois que on est capable collectivement de faire ça, compte tenu justement de notre proximité avec l'Église par le passé?
Oui, collectivement, oui, parce que l'Irlande, il y a une proximité avec l'Église qui est claire. Et pourtant, on a été capable de dire oui, on le fait. La difficulté qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication des laïcs dans l'Église. C'est la seule manière d'arriver à un changement.
Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Parce qu'il y a un auditeur qui écrit « Les protestants n'ont pas de problème puisque les prêtres ont le droit de se marier ».
Oui, mais dans les autres pays, puis ailleurs, mais en Angleterre, avec l'Église anglicane, les pasteurs se marient, mais pourtant, il y a eu des scandales sexuels sur des mineurs quand même. Peut-être qu'il y en a moins, toute proportion gardée, ça, je l'ignore, il faudrait faire une recherche à ce niveau-là.
Mais quand tu parles des laïcs, tu veux dire quoi exactement?
Ça veut dire des gens qui sont mariés, des gens qui ne sont pas mariés, mais qui n'ont pas fait de vœux de
comment on dit, de
d'abstinence.
Oui, oui.
qui n'ont pas fait leur vœu et qui disent parfait, on va dans l'Église, puis on va prendre des postes de direction. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas. Les laïcs ne retrouvent pas leur place dans le pouvoir décisionnel.
Bonne chance, mon cher Alain, parce que, écoute, pas certaine que l'Église catholique est prête à ouvrir toute grande ses portes aux laïcs aujourd'hui.
Bien, on veut faire de la synodalité. On en a parlé depuis 50 ans, mais il y a un moment donné, il va falloir arriver à dire, bon, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, puis de quelle façon on le fait. Faut pas oublier une chose, Nathalie, puis on l'oublie tout le temps. Jusqu'à les années 1100, les prêtres étaient mariés dans l'Église catholique.
Malheureusement,
même au tout début de l'Église, on votait pour son évêque.
Ah oui, hein, c'est fou, hein?
Oui, donc il y a eu... Si l'Église, pendant 1000 ans, avait des prêtres mariés...
Oui.
Pendant 1000 ans, il n'y en avait pas. Mais pendant le prochain millénaire, il y en aura.
Alors, c'est dit, mon cher Alain Pronkin. Merci beaucoup. C'est toujours fort intéressant parce que ce genre de scandale, ça vient nous chercher. On se dit, il faut que les gens, faut que les prêtres soient punis là, parce que ça demeure des crimes qui bousillent la vie de beaucoup trop d'hommes en particulier, beaucoup trop de gens. Oui. Merci beaucoup, Alain. On se reparle. Excellente fin de semaine. Bye-bye.
Merci. Bye-bye.
À la prochaine à 11h15, courte pause et je vous propose la semaine de 4 jours. Est-ce que ça serait possible dans votre milieu de travail, un article de la presse qui nous a interpellés ce matin? Je vous en parle après la pause.